Nous avons vu dans le chiour précédent la double présence au sein du Ham Israël de ce qu'on appelle le Yetzerara et le Yetzeratov, que le Tanya a expliqué sous forme de deux Neshamot, ou bien deux Nefashot. Nous avions déjà vu un premier pan, nous avons analysé un début de premier pan concernant l'âme. La première, qui se trouve à l'intérieur du sang de l'homme. Elle a comme nature deux définitions qu'on avait données la dernière fois, le nefesh mitzada klipa vesitra achara. Mitzada klipa, on avait expliqué qu'il s'agissait de tous les éléments qui ont tendance à recouvrir le emet, la vérité, telle qu'elle se trouve réellement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une couverture du Emet qui est extérieure. On l'appelle la Klipa, à l'image de l'écorce d'un fruit qui vient recouvrir ce fruit, recouvrir et cacher, dissimuler l'aspect positif que le fruit détient. Puis nous avions vu qu'il y avait aussi un penchant du mal qui se trouvait à l'intérieur même de la personne, qu'on avait appelé Sitra Achara, en araméen, qui veut dire le penchant du côté du mal. Eh bien, de ces deux éléments, la klipa et la sitra achara, et là nous reprenons dans le texte, par une ligne qui commence Umimena. Donc, Umimena, de cette âme numéro 1 que le Tanya a définir, Baot kol amidot raot, viennent tous les mauvais comportements. Et particulièrement, Me'arba Yesodot Raim Sheba, des quatre éléments négatifs qui s'y trouvent. En effet, il faut expliquer ces quatre éléments négatifs sont négatifs de manière relative, car toute Mida peut être renversée d'un côté positif comme d'un côté négatif. Nous dit le Sha'arei Kedusha, dans les premiers prakim, c'est un sefer qui a été écrit par le Rabbi Haïm Vital, plus exactement, que ces midot et ces grandes familles de midot sont au nombre de quatre, au même titre que les quatre éléments qui se trouvent dans le monde. Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar, le feu, le vent, l'eau et la terre. De la même manière qu'on retrouve ça à un niveau matériel dans ce monde ici-bas, nous avons l'équivalent au niveau spirituel. La source du feu, la source du vent, la source de l'eau et la source de la terre. De ces quatre sources, qui sont tout simplement les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, vont ressortir, nous dit le Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal, les quatre midot ra'ot ou les quatre midot tovot. Et ces quatre éléments vont se retrouver d'un côté comme de l'autre, d'un côté dans le nefesh dont on est en train de parler, qui est défini par la klipa et la sitra achara, et vont aussi être présents de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du Tov, du bien, dans le Nefesh Ha'eloki, que l'on verra plus tard dans le Perek Bet. Et le Tanya va les énumérer les uns après les autres en expliquant exactement de quoi il s'agit. Entre parenthèses, il existe, comme dans les Melachot de Shabbat, les Avot et les Toldot, c'est-à-dire les interdits primaires, ceux qui sont cités dans la Torah de manière claire et explicite. Et puis, il y a les descendants, les toldot, de ces interdits de Shabbat. C'est-à-dire, ce sont des melachot qui ressemblent, de manière très proche, aux melachot cités, les melachot, c'est-à-dire les travaux interdits pendant Shabbat, qui sont cités parmi les 39. Eh bien, au niveau des midot, on se retrouve exactement de la même manière. Il y a quatre grandes midot ra'ot. Et de ces midot ra'ot, ces quatre uniquement, vont découler une série de conséquences. Et ce qui était très intéressant de faire, lorsqu'on est atteint d'une de ces midot ra'ot, et souvent ce sont des toldot et pas des avot, c'est-à-dire des mauvaises midot, des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, qui sont secondaires, mais qui sont en réalité liées à une attitude primaire. Et en remontant les branches, on pourrait savoir quel est le travail que l'on a à faire sur soi dans ce monde. Et cela pourrait nous ouvrir une boîte de Pandore, étant donné que, en sachant nos faiblesses, on a un objectif dans la vie. Et on saura comment se comporter là où il faut être vigilant, parce qu'on connaît là où on est faible. Et inversement, nos points forts, les utiliser à bon escient. Reprenons dans le texte. La première de ces mauvaises midot, Dehainu ka'as ve'gaava mi'yesod ha'esh, shinigba lemala. Il s'agit de la colère et l'orgueil. En sachant que l'orgueil et la colère sont liés, puisqu'elles viennent de l'élément feu, qui a tendance à s'élever, au même titre que le coléreux est celui qui détient en lui de l'orgueil. La colère est une fabrication de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'orgueilleux ne supporte pas que quelque chose ne se fasse pas sous sa propre maîtrise ou sa propre volonté. Et cette situation d'antagonisme entre sa volonté et la réalité, eh bien, le pousse à extérioriser des mots, des gestes, qu'on appelle de la colère, et qui prouvent la faiblesse en réalité de cette personne. Lorsqu'une personne ne s'enorgueille pas, travaille sur l'humilité, alors vous pouvez automatiquement avoir comme conséquence une baisse des attitudes colériques de cette même personne. Et cela peut nous donner des idées. Quelqu'un qui est justement coléreux, qui s'enflamme très rapidement, au lieu de travailler la colère, qui est chose impossible lorsqu'il y a une tempête, on ne peut pas lutter contre la tempête de manière perpendiculaire au problème. Eh bien, essayez de prendre les choses à revers, c'est-à-dire d'être sournois avec son Yetzera et d'aller chercher ailleurs une solution. La solution, c'est de travailler son orgueil et de cette manière, éviter la crise. Que ça soit à la maison, que ça soit au sein de ses amis, au travail ou au sein d'une communauté. Ça, c'est la première Mida Ra'a qui est issue de cette Klipa et Sitra Achara. Car n'oubliez pas, on peut toujours avoir le côté extérieur et le côté intérieur de la colère. Une colère provoquée de l'extérieur ou une colère provoquée de l'intérieur. Un orgueil dû à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a jugé de nous-mêmes qu'on était capable, qu'on était suffisamment capable de tenir la tête haute par rapport à son entourage et se considérer comme supérieur à, ou bien regarder l'extérieur, juger l'extérieur inférieur à soi-même. Donc un orgueil face à face avec soi-même, ou bien un orgueil face à autrui. Ensuite, Veta'avat ha'ta'anugim, deuxième Midara'a, Niyesod ha'mayim, le désir du plaisir, qui nous vient du deuxième élément qu'on appelle l'eau. Ki ha'mayim metzamchim kol minei ta'anug, car l'eau fait jaillir toutes sortes de plaisirs. En effet, l'eau est une symbolique du plaisir. L'eau détend, l'eau a tendance à assouplir les contacts et améliore les situations à vif. Donc, il faut se rendre à l'évidence que l'eau a un contact avec la notion du plaisir, du ta'anoug. Alors, vous allez me dire que ça fait pas de mal de temps en temps de prendre un bon café, prendre un plaisir à discuter, à écrire un poème, etc., etc. Le plaisir n'a jamais tué. Mais attention, le plaisir est une drogue. Il faut le maîtriser. Et arrive un moment donné où ce plaisir-là, s'il n'est pas cadré, il prendra, comme des lianes, toute la place. Il poussera à un tel point où il mettra à l'extérieur tout élément qui n'a pas comme conséquence le mot plaisir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des plaisirs qui sont positifs, qui font partie du côté du tov qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Mais il faut savoir que la source du mauvais plaisir, celui qui n'est pas limité, qui n'est pas maîtrisé, celui qui, par exemple, va vous abîmer vos enfants, je donne un exemple tout simple. Lorsqu'on laisse un enfant des heures et des heures passant devant un jeu vidéo, vous verrez qu'à force de plaisir de ce jeu vidéo, il finira par avoir une attitude colérique, nerveuse, mauvais au travail. Toute sa passion va être engloutie par cet objet. Pourtant, ça lui est un plaisir. C'est un plaisir négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas maîtrisé, parce qu'il n'est pas limité, et parce qu'il n'admet pas, au moment où il joue, au moment où il a ce plaisir, qu'une autre chose plus importante peut faire place au même moment et au même endroit. Et cela est valable pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et surtout pour les adultes qui ont encore plus conscience de la notion du plaisir. Troisième élément, ve'olelut, ve'letzanut, la flatterie, la moquerie, ve'atif arut et la coquetterie. Udvarim betelim, et les choses futiles, ou les paroles futiles, qui viennent mi'esodaruah, de l'esprit du vent. De la même manière que le vent n'a pas de consistance, de la même manière, il n'y a ni dans la flatterie, ni dans la moquerie, ni dans la coquetterie de consistance. Mais par contre, l'homme se fait absorber, littéralement, par ce genre de choses, et parfois même sans s'en rendre compte. Donc il s'agit du troisième Yesod, le Yesod Aruach. Puis, pour terminer, le quatrième, Atzlut ve'atzvut, la fainéantise et la tristesse, qui, elles, font partie des éléments qui décantent, ni Yesod Afar, l'élément de la terre. De la même manière que la terre a tendance à s'alourdir, c'est l'élément qui rattache au sol, c'est l'élément perpendiculaire, l'élément de l'attraction vers le bas, la pesanteur. Attention, sans la pesanteur, nous ne pourrions pas vivre. Mais encore une fois, il s'agit d'une pesanteur négative dont on est en train de parler. C'est-à-dire la fainéantise qui nous donne des gens qui s'ennuient, et des gens qui commencent à s'attrister et arriver même au point d'en faire une dépression. Et alors, on arrive malheureusement à une situation de dévalorisation de la personne. Et la personne rentre dans un cycle où elle ne peut plus s'en sortir. C'est le sable mouvant. Donc vous voyez, quatre yesodot qui correspondent à quatre styles de midot raot. Le Tanya continue et nous dit Vega midot tovot, et même les midot tovot, Shibeteva kol Israël, qui se trouve dans la nature même du Ham Israël, des Toldotam, ou dans leurs descendants, Kemo Rahmanut, ou Gmilut Rasadim, Baot Mimena. Il y a aussi des midot tovot qui se trouvent, comme on a vu Rahmanut, c'est-à-dire la miséricorde, Gmilut Rasadim, la bonté, la charité, qui peuvent dépendre également de ce nefesh chez la klipa. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que le Hadmour HaZaken est en train de nous dire que, attention, cette klipa et cette citra achara n'est pas à 100% négative. C'est pas du kulura. Car on peut en tirer, et c'est ce qui fait justement la possibilité, comme on a déjà vu dans les shurim plus en arrière, ces deux travaux que l'on a, la itkafia et la itapra. Cette faculté de l'homme de, 1, maîtriser son yetzer hara, puis deuxième étape, de transformer le Yetzer Hara. Étant donné que le mal, en ce qui nous concerne, a deux parties. Il a une partie mal-mal, mais il y a aussi le bien du mal. Et le fait que dans la nature du mal, il y a aussi une partie bonne, par exemple, lorsque j'ai pitié d'un pauvre, je lui donne de l'argent pour me soulager. Donc automatiquement, c'est du mal quelque part si on réfléchit de manière relative, mais attention, ce mal, c'est quelque part une transformation d'un mal qui serait koulo mal, koulo ra. C'est pour ça que le Admour Hazaken nous dit que le teva du Ham Israël, c'est d'avoir la capacité, le potentiel d'aller chercher dans le mal la partie bien. Pourquoi ? Ki be Israël, nefesh zo de klipa, imi klipa noga. Car cette nature que le Ham Israël possède en lui, c'est une klipa qui est noga. Nouvelle terminologie. Noga, ça veut dire où il y a un mélange. Tout n'est pas à jeter. D'accord ? Je vous donne l'exemple. Une écorce d'orange, on pourra toujours en faire de la confiture, même si de manière habituelle on la jette. Mais l'écorce d'orange n'est pas néfaste, on peut en faire quelque chose. La sole, la arava, ce qu'on utilise à Sukkot, même si elle est considérée comme racha, dans les quatre espèces qui correspondent aux quatre types de juifs, eh bien il y a quand même, pour le racha, une solution. Laquelle ? De la arava, comme je l'ai déjà dit, on peut en tirer un aspect médicamenteux, qui est l'aspirine. Donc vous voyez que c'est ce qu'on appelle la klipa noga. Un mal qui n'est pas entièrement mal, dont on peut yesh bagam kentov. Vehi besod et sadaat. Tovara. Et elle a comme source l'arbre de la connaissance du mal et du bien. C'est-à-dire ce moment où Adam Arishon a inclus en lui, il n'a pas inclus uniquement du mal lorsqu'il a mangé le fruit interdit, certes interdit, donc du mal, mais la nature même de ce fruit était Tov Vara. Donc il a fait rentrer en lui, à l'intérieur, intronisé en lui, alors qu'avant le Yetzirah était extérieur, là il a fait rentrer à l'intérieur, mais certes ce Yetzirah n'était pas Koulora, il était Tov Vara, comme le nom l'indique, Peri Etzachaim Tov Vara. Mashenken Nefashot Umota Olam. Ce qui n'est pas le cas pour les âmes des nations. Hen Mishar Klipot Tmeot. Elles font partie des autres styles de Tmeot. Chez Hen Baim Tov Klal. Qu'ils ne possèdent pas de bien réellement au fond, au potentiel. Toutes les choses positives que les nations font, le font relativement par rapport à un bien-être qui leur sont propres. Comme c'est rapporté dans la Gemara, au sujet du Pasuk, que le bien que les nations font est considéré comme un chet. Alors attention, je m'arrête et je continuerai par la suite, mais il faut faire très attention ici de bien comprendre, car s'il est évident qu'aujourd'hui certains non-juifs se comportent d'une manière tellement plus bonne que malheureusement des confrères de notre communauté, et donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Le but ici n'est pas Chassé Shalom, de dénigrer qui que ce soit, mais de bien comprendre le potentiel. Et j'ouvre une parenthèse, le potentiel. Lorsqu'on dit que Adam Arishon a consommé le fruit du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il a ingurgité en lui un potentiel puissant du mal et du bien. Donc il est assujetti à faire du grand mal et du grand bien. Alors que le Goy a été créé par Akadosh Baruch Hu, d'où l'importance d'honorer le goy, la nation étrangère entre guillemets, et la respecter parce qu'elle détient une étincelle d'existence que Dieu a mis à l'intérieur. Mais ce potentiel est un potentiel qui est fixe. C'est-à-dire que il n'y a pas une profondeur qui soit d'un côté ou de l'autre. Il y a un aspect figé, si vous voulez, du nefesh, de l'âme des nations. D'ailleurs, on parle dans le Zohar de Ashgacha Pratit, Ashgacha Klalit. Chaque juif, il a une providence. Et Dieu va le juger en fonction de cette providence divine qu'il va lui donner. Par exemple, à un moment où on a besoin de voir trois personnes en même temps, comme par hasard, on croise dans les couloirs ces trois personnes au moment où on en avait besoin. C'est ce qu'on appelle une Ashgacha Pratit. C'est quelque chose de... une providence divine qui est propre à l'individu. Le monde des goyim, ils ont aussi cette Ashgacha, mais qui n'est pas pratique. Elle est clalite. C'est-à-dire que Dieu va juger la nation et va déterminer que pour la nation, il est bon que telle chose se passe à ce moment-là et que cela sera bon pour cette nation. Vous voyez que le jugement n'est pas le même. L'aspect général d'un côté, l'aspect particulier de l'autre. Donc le potentiel, et c'est en potentiel qu'il faut comprendre ce Admour HaZaken, le potentiel d'un juif est capable d'aller très très loin, que ce soit dans le mal, mais aussi que ce soit évidemment dans le bien. Mais le potentiel d'un goy a déjà été dessiné par HaKadosh Baruch Hu, et personne pourra faire en sorte de dépasser ce potentiel qui lui a été donné. Alors que le Ham Israël a un potentiel très important qui peut même dépasser certaines limites qui étaient prévues au démarrage. Et évidemment, ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui, d'après le Admor HaZaken, c'est qu'on peut très bien avoir des goïms qui utilisent à 100% leur potentiel et qui sont des gens, des géniaux, des génies à tous les niveaux, au niveau des midot, au niveau de l'intellect, au niveau du parler, au niveau de la pensée, des gens magnifiques. Et à côté de ça, avoir des confrères qui ont un énorme potentiel, mais qui l'utilisent à 0,1% et surtout dans une situation complètement en dommage par rapport à leur potentiel. Je continue pour terminer. Chez Kol Tzedaka va Chesed chez Umota Olam Osim et Nan Ela Leitiaer. Et ça, on le voit aujourd'hui, que de manière générale, les nations, comme j'ai expliqué, je parle des nations, je ne parle pas du goy en particulier, je parle des nations, ont une tendance générale, lorsqu'elles font quelque chose, c'est toujours pour s'enorgueillir, pour montrer que nous, on est bons, nous, on fait ci et nous, on fait ça. Et on le voit clairement aujourd'hui, les centres d'intérêt des conflits armés que l'Europe, que l'Occident lance dans le monde, ce sont des endroits où il y a un profit. Ils n'iront jamais vérifier si entre la Thaïlande et la Chine, la Chine n'est pas en train de conquérir et de racheter des fermes. Ça, ça ne les intéresse pas. Et parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Mais par contre, là où il y a des intérêts, des minerais, du pétrole, du gaz, etc., alors on va lancer une guerre. Et souvent, on n'est pas au courant. Justement pour protéger le pauvre, soi-disant ça c'est la partie publicité, mais derrière il y a des intérêts. On ne fera jamais une guerre, un conflit, s'il n'y a pas un intérêt derrière. Et ça c'est quelque chose de connu dans les grands stratèges de manière générale. Une autre manière d'expliquer également cette différence, pour ne pas rester sur une mauvaise compréhension du texte, les goyim ont, les nations ont un nitzutz. C'est-à-dire, ils ont une vitalité qui va leur venir de l'extérieur. Dieu va les nourrir spirituellement. Ça va nous donner les différentes religions, les différentes philosophies que l'on peut trouver dans le monde. Par contre, la pnimiyut, ils n'en auront pas. C'est-à-dire d'englober Dieu à l'intérieur de soi, d'accepter que Dieu se trouve en moi, tant lorsque je suis dans ma salle de bain que quand je suis à la synagogue, l'imbrication de Dieu dans la matière, aussi forte que celle du judaïsme, n'existe pas dans le monde. Au point où les commandements sont des commandements matériels. Que lorsque je me marie, lorsque je procrée, nous sommes trois à procréer. Le Père, la Mère et Akadosh Baruch Hu, qui va donner la Neshama. Donc, vous voyez, l'aspect un petit peu aussi différent que l'on peut comprendre, c'est dans la philosophie du judaïsme, où on incruste la présence divine au plus bas de ce monde. Contrairement, par exemple, au christianisme, où Dieu est en haut et l'homme est en bas, et il y a une certaine séparation entre les gens d'église et les gens profanes, comme vous connaissez dans vos leçons d'histoire. Pareil au niveau du mérite. Le mérite d'un goy et le mérite d'un juif ne sont pas tout à fait les mêmes. On sera beaucoup plus tranchant sur une punition ou un mérite concernant une avoda d'un ben Israël que celle d'un goy. Le travail n'est pas du tout le même. Et c'est d'ailleurs la question et l'affirmation que l'on dit lorsqu'un goy veut se convertir au judaïsme. On lui dit, regarde, tu as 613 mitzvot. Très compliqué à faire et c'est très difficile d'atteindre son objectif. Alors que le monde goy n'en a que 7, il est beaucoup plus facile d'être un bon goy que d'être un bon juif. Et malheureusement, c'est une réelle situation. Donc, sur quoi sont jugés les goyims? Ils sont jugés sur, comme on l'a expliqué, une hashgacha klalit, sur une généralité. La majorité de la population française doit recevoir, et méritant de recevoir telle et telle chose, ou de sortir de la crise, etc., ce qu'on on le souhaite tous. C'est ce qu'on appelle l'effet de masse. Dieu va prendre la nation, il va le juger, et tombera ce qu'il tombera. Voilà. Une fois que les choses sont précisées, vous pouvez toujours laisser, s'il y a des zones d'ombre dans cette explication délicate, des messages auxquels éventuellement on essaiera de répondre. Et nous passerons au Perek Bet dans le prochain chiour.